powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Revolution, baby.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit encore rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer leur puissance, et c'est ce qu'on va voir tout cet été. Femme puissante, saison 3, avec une soprano du barreau, une réanimatrice qui sauve des vies, une actrice Oscar, une grande patronne, une candidate à la présidentielle, et ce samedi, c'est une grande historienne, Michèle Perrault, est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Non, en fait, on reste pas dans la
bibliothèque en bas. Je vous laisse appuyer.
Ouais. Okay. Bella.
Ah. Elle est là. Bonjour. Bonjour Michèle Perrault.
Bonjour Léa Salamé.
Merci, merci. J'allais dire de me recevoir chez vous, mais on n'est pas chez vous.
On est à la bibliothèque Marguerite Durand.
C'est qui Marguerite Durand?
Marguerite Durand, c'était une actrice très jolie. Mmh. Elle disait « Nul ne sait ce que le féminisme doit à mes cheveux blonds ». On la voit d'ailleurs là. Et,
ah oui, c'est vrai qu'elle est très belle sur ce,
très belle
ce tableau,
femme.
Sublime, et très féministe.
Elle était très féministe à la fin du 19e, et elle a lancé un journal qui s'appelait La Fronde, hein, où se retrouvent toutes les féministes de l'époque, Séverine, Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier, etc.
Donc
etc.
C'est un lieu que vous aimez particulièrement?
C'est un lieu que j'aime beaucoup à cause de ce qu'il est, à cause de ce que ce lieu représente, hein, pour bien au-delà des historiennes, naturellement. Dès qu'une femme, ou un homme, bien sûr, que quelqu'un veut faire une recherche sur les femmes, il faut venir à Marguerite Durand. Donc c'est un lieu important.
Formidable. Michèle Perrault, La Frondeuse, on y va.
Elle a fait sortir les femmes de l'oubli. Elle leur a donné une place en imposant pour la première fois à l'université dans les années 70 un cours consacré à l'histoire des femmes. Avant, c'était pas un sujet. L'histoire de la moitié de l'humanité, on s'en fichait un peu. C'est aussi par son travail majeur sur la classe ouvrière qu'elle s'est faite remarquer. Grande historienne, elle est devenue l'icône des jeunes féministes d'aujourd'hui. À plus de 90 ans, elle semble plus vive et plus fraîche que n'importe quel trentenaire. L'esprit acéré, le mot juste et l'érudition généreuse, Michèle Perrault est notre invitée. Michèle Perrault, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante?
Au jamais. Et ni aujourd'hui, ni autrefois. Hein. La puissance ne fait pas partie de mon horizon. À la limite, je n'aime pas tellement le mot, parce que je le trouve phallocrate. Je pense au phallus, et au fond, ce qu'il représente, le goût du pouvoir, l'ambition, l'exercice du pouvoir, ce sont des choses auxquelles je me suis heurtée, dont je n'avais pas l'ambition comme beaucoup de femmes.
C'est amusant que vous me répondiez ça, parce que justement, toute l'idée de ce podcast, c'est de réfléchir autour de la question de la puissance, et pourquoi est-ce que c'est phallocrate, comme vous dites? Pourquoi, quand on dit un homme puissant, il y a quelque chose de waouh, c'est un homme puissant, alors qu'une femme puissante, ça heurte? D'ailleurs, ma patronne ne voulait pas que j'appelle sa femme puissante, parce qu'elle trouvait que ça clivait. Et pourquoi est-ce que, quand on associe le terme de femme et d'ambition, forcément, c'est négatif?
Parce que nous sommes prisonniers des représentations de très longue durée qui structurent les rapports entre les hommes et les femmes. Si on regarde le 19e siècle, public-privé. Le public, c'est les hommes. Au cœur du public, la politique, les hommes, la décision. Le privé, les femmes, la famille, la maison, le bonheur, bien entendu sous le contrôle des hommes. Hein, à commencer par le code civil dont George Sand disait l'infâme code civil. J'y pense beaucoup avec
l'anniversaire de Napoléon. Hein.
Et par conséquent, nous sommes prisonniers de ces structures, de ces représentations, et inconsciemment, peut-être, nous les véhiculons.
Mais chez moi, et en tout cas chez les femmes que j'interviewe, la notion de puissance n'est pas la même chose que la notion de pouvoir, justement. La puissance, Leïla Slimani dit, c'est avoir le courage de déplaire. Quand on a enfin le courage de déplaire, quand on n'a plus peur, quand on a trouvé son axe, on est puissant. C'est quelque chose d'intérieur, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre d'écraser les autres.
Ce n'était pas mon sentiment spontané. Je vais peut-être changer d'opinion.
Moi, en tout cas, vous êtes à mes yeux une femme puissante, Michèle Perrot, parce qu'au-delà de vos travaux majeurs d'historienne sur la classe ouvrière, vous êtes la première à avoir sorti les femmes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, de l'oubli. Longtemps, à l'université, la question des femmes, leur histoire, leur combat n'existait pas. C'était pas un sujet, c'était un non-sujet, pas très intéressant. Grâce à vous et quelques collègues, vous avez changé les choses. On est au début des années 70. Vous mettez en place à l'université de Jussieu le fameux premier cours qui fera date « Les femmes ont-elles une histoire ?» Pourquoi les femmes sont-elles restées si longtemps un angle mort, un point aveugle du récit historique?
Ça vient d'une part du fait qu'elles ont laissé moins de traces, parce que on ne les regardait pas, ce qu'elles faisaient n'était pas considéré comme intéressant, et d'autre part, parce que la conception de l'histoire, telle que nous l'avons héritée des Grecs, hein, Hérodote et autres, c'est l'histoire publique, c'est-à-dire le pouvoir, les règnes, les hommes puissants, justement, ou les déesses, bien sûr, il y a aussi beaucoup de déesses, mais une déesse est-elle une femme? On peut se poser la question. Pour toutes ces raisons, les femmes n'apparaissent pas. Il y a un déficit de sources que l'on peut combler, hein, et tout le travail des historiennes, le rôle d'une bibliothèque comme ici, où on trouve des quantités de journaux, de sources, voilà un exemple de ce que l'on peut faire. Et puis, surtout, cette conception de l'histoire, hein, qui pendant très longtemps a été, encore une fois, l'histoire publique.
Donc des hommes.
Donc les hommes. Alors, vous allez me dire, il y a eu des reines. Ben oui, bien sûr, il y a eu des reines.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais pas en France.
Il y a eu Jeanne d'Arc en France.
Il y a eu Jeanne d'Arc, et d'ailleurs Jeanne d'Arc tient une très grande place dans les manuels. Mais je dirais la seule.
Ouais, hein, c'est vrai.
La seule. Les autres, on n'en parle pratiquement pas.
C'est vrai.
Autrement dit, elle est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Alors, il y a eu des reines anglaises surtout, danoises, mais pas en France. Et en France, ça vient du fait qu'il y avait la loi Salique.
La loi Salique, bien sûr.
Et la loi Salique excluait les femmes du trône, et par conséquent, la reine n'était que la femme du roi.
Michèle Perrot, on va reparler des rôles modèles et pourquoi, quand on regarde l'histoire, on ne cite que Jeanne d'Arc ou à peu près en France. Vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, je reviens à ça. Début des années 70, vous êtes une historienne. Vous introduisez donc ce premier cours sur les femmes, sur la question des femmes. Et Ernest Labrousse, grand universitaire et historien qui encadrait vos travaux de recherche, vous avez dissuadé de faire votre mémoire de maîtrise sur le féminisme en vous disant « vous ne ferez jamais carrière avec ça ».
Oui, absolument. Labrousse était un grand homme et je voudrais lui rendre hommage. Mais le féminisme, c'était pas du tout une chose de son temps. Il l'était dans la pratique, c'est-à-dire que il me considérait comme absolument égal aux hommes. Alors là, j'ai eu aucune discrimination. Ce qui m'a, au fond, empêché de devenir féministe avant les années 70, c'est que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières personnellement. Des femmes, il y en avait très très peu. Quand j'ai été assistante à la Sorbonne, pour Labrousse, j'étais la seule.
D'ailleurs, vous avez passé votre agrégation féminine d'histoire géo, parce que c'était pas la même chose pour tout le monde.
C'était pas du tout la même chose. L'agrégation féminine se passait, l'oral, se passait au lycée Victor Duruy, obscurément, il n'y avait aucun public, alors que l'agrégation masculine se passait à la Sorbonne, avec la présidence de Fernand Braudel, grand homme s'il en fut, et les gens s'y précipitaient. Ceux qui allaient passer la grecque dans les années suivantes, et puis tout le monde, parce que c'était un événement. Et on se disait, quels sont les jeunes gens qui vont émerger de l'agrégation masculine? Les filles, pas du tout. Alors vraiment pas. Là, j'ai senti quelque chose.
Et là, votre sentiment féministe commence à naître au début des années 70.
Oui, je trouve ça un peu ridicule d'ailleurs. Je trouve ça humiliant parce que dans les amphis, dans les exercices, je valais bien les hommes, hein, tout à fait. Mais là, tout d'un coup, j'étais reléguée à quelque chose d'obscur.
Subalterne. Françoise Héritier, vous la citiez, elle raconte qu'elle a été victime de préjugés sexistes de ses collègues et même du grand historien Georges Duby. Écoutez-la dans L'Humeur Vagabonde en 2012, écoutez ce qu'elle raconte.
on était qu'entre hommes, si je puis dire. Il y avait 20-22 professeurs de sciences humaines. Et on était ensemble réunis pour discuter entre nous. C'était une très riche idée de Gérard Fussmann et de Georges Duby. Et à la fin de la première journée, Georges Duby a dit « Écoutez, mes chers collègues, c'est formidable ce qu'on fait ici, sans auditoire, sans étudiants, sans personne. C'est quand même dommage que tout ça soit perdu. Il faudrait que quelqu'un prenne des notes. » Et très naturellement, il s'est tourné vers moi en disant « Est-ce que vous le feriez, Françoise ?» Alors, ce à quoi j'ai répondu tout aussi naturellement que... Et je n'étais pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que lui. Et il n'a plus été question de prendre des notes. Mais le raisonnement était imparable, vous comprenez, dans sa facilité. Nous sommes tous entre égaux, et nous parlons entre égaux. Et puis voilà, il y a une tâche subalterne à accomplir. Les tâches subalternes, c'est les femmes qui les accomplissent. Il y a une femme parmi nous, c'est donc à elle de s'y coller. C'était ça le raisonnement, vous voyez.
C'est génial, non ?
Ce qu'elle raconte, moi je l'ai vécu, hein, souvent. Comme je suis plutôt du genre gentil, ça m'était bien égal, je prenais des notes. Mais elle a raison, en effet, c'était un réflexe conditionné. Une femme est là, c'est à elle de prendre des notes. Mmh. Hein. Mais quand j'étais assistante à la Sorbonne, je vous disais tout à l'heure que j'étais la seule femme. Il y avait de temps en temps des réunions de tous les assistants. On employait le terme assistant à cette époque. Et le professeur qui présidait, toujours un grand professeur... disait « messieurs ».
Oui.
Et moi, ça ne me gênait pas. Je dois vous dire...
À quel moment ça a commencé à vous gêner ?
Mais vous savez, ça m'a gêné par éclair, comme ça. Mais ça me faisait rire. Voilà. Autour de moi, j'avais plutôt des hommes féministes. Donc, je me sentais pas mal du tout. Et quand je voyais ces petits trucs-là, je me disais « quand même, c'est ridicule ». Enfin, c'est complètement ridicule. Mais je n'ai vraiment théoriser tout cela, d'abord en lisant Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
Ah, on va y venir. Hein, on va y venir.
C'est quand même paru en 49 que j'ai lu dans les années 50-55, par là. Hein. Et puis le mouvement des femmes des années 70.
Oui, mais on voit quand même que ça a été difficile pour vous d'imposer la question des femmes à l'université et que même ces grands hommes qui étaient plutôt égalitaires restaient quand même très machos. Même les mecs de 68 étaient machos.
Ah ben, en 68, les quatre grands, Cohn-Bendit bien sûr, Sauvageau et les autres, bon, ceux qui montaient sur le Lion de Belfort, il n'y avait que des hommes sur le Lion de Belfort, les femmes il y en avait, on était là, on applaudissait, on regardait, on était très très contentes, très heureuses, mais toujours dans le rôle de l'incarnation.
Les stars c'était les hommes.
Ah oui, même Simone de Beauvoir, la grande Simone de Beauvoir que j'aime tant, dit... L'histoire a été faite par les hommes.
Elle dit hein cette phrase.
Elle dit cette phrase, absolument.
Alors Simone de Beauvoir, elle a beaucoup compté pour vous, vous le dites. Vous avez 20 ans, je crois, 21 ans, quand sort Le deuxième sexe, en 1949. Pourquoi c'est un livre qui vous a aidé ? Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Simone de Beauvoir ? Et pour celles qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas lu Simone de Beauvoir, que serait le féminisme sans elle ?
Oh ben, elle est absolument centrale. Elle a non seulement... j'allais dire, introduit le féminisme en France, mais de manière internationale, on pourrait dire qu'elle est la mère du genre, puisqu'on emploie beaucoup le terme de genre aujourd'hui. Quand Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient », et quand elle ajoute dans un autre de ses livres « On ne naît pas homme, on le devient », qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que la virilité, la féminité ne sont pas liées à des conditions naturelles, physiques, biologiques, mais à des constructions culturelles et historiques. Et que par conséquent, ce qui a été fabriqué, on peut le défaire. Et on n'a pas sur les épaules un destin. Les femmes n'ont pas un destin. Ce destin de maternité, d'épouse, de mère, auxquelles on les destine normalement, en les excluant du pouvoir d'ailleurs, et de la puissance ô combien, eh bien, ça n'est pas imposé. Elles peuvent faire autre chose.
Vous vous rappelez ce que vous ressentez quand vous lisez le deuxième sexe à 20 ans ?
Deux choses. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça ennuyeux. C'est drôle, hein ? Mais c'était tellement solide, tellement sérieux, avec tellement de références. C'est un travail gigantesque, celui de Simone de Beauvoir. Elle a passé des jours et des jours à la Bibliothèque nationale de l'époque, rue de Richelieu, pour défricher tout ça. Et elle nous donne les preuves. Donc c'est pas un roman, C'est vraiment un livre de philosophie et d'histoire. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai vu ça comme une révélation. Progressivement, je voyais un petit peu ce que j'étais et ce que les femmes étaient dans la société.
On va l'écouter. On est en 49, c'est une archive de l'INA. Simone de Beauvoir qui raconte comment elle est venue à s'intéresser à l'histoire des femmes et à écrire le deuxième sexe.
Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. Ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Je ne crois pas du tout que ce soit un ouvrage de revendication, de ressentiment, de complexe d'infériorité, comme on l'a insinué. Mais il y a certainement dans ce livre une certaine passion, parce que le fait est que je trouve que la situation des femmes telle qu'elle est aujourd'hui est déplorable à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, qui d'ailleurs les uns et les autres s'en plaignent, et que bien entendu, ça n'a rien pour moi d'un exposé simplement abstrait. Ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe.
Elle a tout à fait raison quand elle dit « c'est pas un livre de revendication, pas du tout ». C'est vraiment la recherche des fondements des rapports hommes-femmes tels qu'ils ont été construits.
Simone de Beauvoir, ça fait partie de ce que j'appelle les trois Simone, puisque à peu près toutes les femmes que j'ai interviewées, quand je leur demande leur modèle d'identification, eh bien, elles ne répondent à peu près toutes que les trois Simone, soit Simone de Beauvoir, soit Simone Veil, soit Simone Veil avec un W, c'est-à-dire la philosophe du début du siècle. Il n'y a que ça, Michel Perrot, comme modèle d'identification, il n'y a que les trois Simone.
Ah non, il y en a beaucoup d'autres. Et évidemment, les historiennes en ont fait surgir beaucoup. Mais je souscris à la triade. Hein. Les trois Simone, pour moi, ont été très importantes. La première que j'ai découverte, au fond, c'est la philosophe.
Hein.
Simone Veil. Simone Veil, W, La condition ouvrière, qui est un très grand livre et qui correspondait tout à fait à mes inquiétudes sociales. D'ailleurs, Simone de Beauvoir parle du social. Elle dit que pour elle aussi, le social, c'était très important. Il faut voir ce que c'était que les années 50, l'après-guerre. Hein. C'était la reconstruction, c'était les difficultés de tous ordres, une France pauvre. On n'a plus idée maintenant. Hein. La France est bien plus riche maintenant. Et donc, le social était absolument crucial, d'autant plus que on demandait aux ouvriers de travailler, de produire dans les mines, dans la métallurgie, dans des conditions physiques et de salaire qui étaient très médiocres.
Donc, c'est elle, la philosophe Simone Veil, qui vous a amené à travailler, puisque au-delà de vos travaux sur le féminisme, vos travaux sur la condition ouvrière sont majeurs dans l'histoire, Michel Perrot.
Oui, c'est peut-être pas elle qui m'a emmené à travailler là-dessus, mais son livre a été une révélation pour moi.
Et Simone Veil avec un V, c'est-à-dire la Simone que tout le monde connaît.
Oh ben c'est une femme extraordinaire.
Vous l'avez rencontrée ?
Oui, je l'ai rencontrée dans des réunions, une réunion comme ça, c'était au moment du massacre des Tutsis. Et on en parle. Et je lui dis, mais c'est terrible, cette lutte entre les Hutus, les Tutsis. Mais elle me dit, mais pas du tout, ce sont pas deux ethnies qui s'étripent, c'est un génocide. Je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'elle ait dit à ce moment-là, elle l'a dit plus tard, le mot génocide, mais elle considérait que les Tutsis étaient massacrés.
Que c'était un génocide préparé. Comme ce qu'elle avait vécu, elle, à Birkenau.
Exactement.
Sur le manque de rôle modèle féminin, comme on le dit aujourd'hui, écoutez Benoît de Groult, elle explique que les modèles féminins lui ont tant manqué dans son enfance. On est dans Avoinu et ça date de 2003.
Ça m'a beaucoup manqué dans l'histoire de France, dans l'histoire sainte, dans la littérature. Au fond, mes modèles, c'était Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant qui ne se réveille que quand le prince charmant l'embrasse, le genre poupée Barbie. Et comme héroïne glorieuse, il y avait Jeanne d'Arc, il y avait la Sainte Vierge, c'est-à-dire une femme qui n'était pas une femme, comme la Sainte Vierge, avec la conception miraculeuse, et Jeanne d'Arc a tout de même un destin dissuasif. Mais où étaient les grandes femmes de l'histoire à qui ressemblaient les littéraires comme George Sand étaient considérés comme une dévoreuse d'hommes et un très mauvais exemple. Simone de Beauvoir aussi, puis en plus elle n'a écrit qu'en 49, c'était pas un modèle pour ma jeunesse. Moi c'était Napoléon, mon grand homme. Mais où était la grande femme à qui m'identifier ? Il n'y en avait pas.
Oui. Je suis ravie d'entendre la voix de Benoît Legroute, qui était une amie, hein, vraiment une amie très chère. Oui, tout ce qu'elle dit est totalement vrai. Elle le dit avec son humour à elle. Hein. Entre Jeanne d'Arc et la Sainte Vierge, on était bien partis.
Elle cite George Sand. George Sand, c'est une femme que vous citez vous également souvent. Elle a une importance spéciale pour vous. Vous dites, elle a tout fait sauter. Elle a choisi son destin de mère, son destin d'amante, sa sexualité, et elle emmerde tout le monde.
Ah oui, oui, oui. Pour moi, George Sand fait partie de ces modèles-là. Et c'est très curieux d'ailleurs, parce que dans ma jeunesse, je lisais pas ces romans. La petite fadette, tout ça, je les lisais même pas. J'avais un préjugé, je pensais que c'était ennuyeux, que c'était de la littérature guimauve. Et puis je l'ai découverte pour des raisons un peu privées, la région que je connaissais, la maison de Nohant, c'est un lieu merveilleux. Et quand on visite cette maison, on la sent. Et alors après, bien entendu, en tant qu'historienne, j'ai lu ses œuvres. Histoire de ma vie de George Sand, c'est un des grands textes autobiographiques du 19e siècle, écrit par une femme. Formidable, absolument. Et la correspondance, des milliers de lettres écrite à toute la terre. Chopin, Liszt, Flaubert,
Musset.
Musset, bien entendu, etc., etc., des centaines de gens. Autrement dit, ouvrir la correspondance de George Sand, c'est voir palpiter le 19e siècle. C'est entrer dedans au quotidien. Autrement dit, elle s'est imposée à moi. Ouais. Et du coup, je n'ai cessé de la chercher, de la revoir. J'ai écrit sur elle aussi, un livre sur sa maison d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un que j'aime énormément.
Il y en a une autre femme puissante ou une autre femme forte comme ça dans l'histoire qui a compté pour vous, à part les trois Simone et George Sand ?
Flora Tristan. Flora Tristan, qui est morte en 1842, donc elle, c'est un petit peu antérieure. Mais voilà une femme extraordinairement libre. Elle est mariée, son mari là-bas, d'ailleurs. Hein. Bon, elle divorce pas, le divorce n'existe que depuis 1884. Elle se sépare de lui, elle fait un procès contre lui, elle s'en va au Pérou pour aller chercher un héritage parce qu'elle était d'origine péruvienne. Enfin, c'est une femme extraordinaire. Tout
une
à
femme
fait.
Libre, quoi.
Et libre et qui écrit. Alors, elle écrit pas comme George Sand. Elle est plutôt journaliste. Elle va en Angleterre. L'Angleterre, c'était quand même la terre du capitalisme. Elle était d'opinion socialiste de l'époque. Et elle écrit un livre sur Promenade dans Londres, qui est un livre très vif, qu'on lit comme un reportage et qui n'a pas perdu une ride. Voilà encore une femme extraordinaire.
Le ZAP.
Et nous recevons l'historienne Michèle Perrault. Bonjour Michèle Perrault.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à Paris Diderot.
Pour en parler, nous sommes avec Michèle Perrault, grande historienne des femmes et du mouvement social. Bonsoir Michèle Perrault.
Mon histoire des femmes, la vôtre, Michèle Perrault.
Les femmes, on les éduque. De bonnes habitudes, on ne les instruit pas.
Et les violences faites aux femmes alors, Michèle Perrault ?
Ah, c'est un combat.
J'accorde beaucoup d'importance à l'histoire des femmes.
Michèle Perrault, vous êtes une des plus grandes historiennes françaises et au monde. Ah, si, 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 je le dis.
C'est une chanson écrite en 1942 qu'a choisi de nous faire écouter Michèle Perrault. Que reste-t-il de nos amours ?
Traîner, c'est la fin de mon enfance, c'est l'adolescence et c'est aussi la fin de la guerre.
Ses travaux pionniers puis fondateurs ont permis l'émergence et le développement en France d'une histoire des femmes.
Je suis de plus en plus frappée par la vitalité des jeunes féministes d'aujourd'hui.
C'est à cela qu'on assiste, selon vous, Michèle Perrault, une révolution et donc une déflagration.
Déflagration, oui. Révolution, peut-être pas encore.
D'ailleurs, vous êtes entrée dans la Pléiade et je vous félicite, encore une fois.
Pour terminer, Michèle Perrault, j'aurais aimé que ça dure toute l'heure avec vous, mais quel combat féministe pour vous majeur reste-t-il à mener ?
Les femmes à égalité.
Oui.
De diplômes, de compétences n'ont pas la même situation que les hommes.
Pour finir, Michèle Perrault, à votre avis, la cause des femmes est définitivement gagnée ou pas ?
Rien n'est jamais définitivement gagné, ni pour les hommes ni pour les femmes. L'histoire est un perpétuel équilibre à reconstruire, donc ça n'est pas gagné.
Michèle Perrault, c'est un honneur, vous êtes une invitée permanente. Il y a un siège pour vous, on va le fabriquer, vous inquiétez pas.
Voilà ma modeste façon d'être féministe.
C'est quoi être féministe ?
Être féministe, c'est vouloir chercher obstinément pour les femmes la liberté et l'égalité. Autrement dit, c'est reconstruire les relations entre les hommes et les femmes, parce que ça concerne les hommes, bien évidemment. pour moi, c'est très clair. Je voudrais dire que je me considère pas du tout comme tout ce que vous avez dit, grande historienne, tout ça.
Vous savez, c'est moi qui le dis, hein. C'est un petit zap.
Oui, oui. D'accord. L'histoire, c'est difficile. Alors, arriver à être une historienne un peu rigoureuse, ne pas dire n'importe quoi, apporter des nouveaux sujets, ça, c'est intéressant. Hein, et faire émerger les choses cachées depuis le commencement du monde, les femmes, par exemple, ça c'est intéressant.
Mais quand vous voyez aujourd'hui le phénomène de mode que c'est devenu, les études sur les femmes, le féminisme, les bouquins sur les femmes, ça cartonne partout, en librairie, à l'université, vous vous dites quoi? Ça vous amuse? Vous regardez ça avec ironie? Vous regardez ça comment?
Avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'intérêt, je lis beaucoup de livres, et d'un autre côté, de temps en temps aussi, je me dis, attention à la mode. Est-ce que les gens vont pas finir par en avoir marre?
Marre du féminisme?
Il peut très bien y avoir un phénomène de « Oh là là, alors encore le féminisme !»
Ça, ça c'est a toujours... commencé, on l'entend un petit peu là.
Mais oui, peut-être. Et vous êtes sans doute bien placé pour savoir ce qui se dit aujourd'hui. Je pense qu'il faut en effet faire attention, il ne faut pas saturer non plus. Et puis surtout, que les gens comprennent que ça peut être intéressant pour tout le monde.
Et voilà, ce n'est pas ça. Excluant pour les hommes.
C'est pas excluant pour les autres.
Il y a un affrontement aujourd'hui entre les féministes de la jeune génération et leurs aînés. Les premières sont plus radicales, elles vouent hégémonie les plus anciennes, ça s'invective par médias interposés. Si je dois schématiser, je dirais qu'il y a Elisabeth Badinter d'un côté et Virginie Despentes de l'autre. Quel regard portez-vous sur cette guerre à l'intérieur même des mouvements féministes?
Le féminisme a toujours été pluriel, toujours. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des débats entre les femmes. Ce n'est pas surprenant, parce que les problèmes posés par les femmes, par les hommes aussi, mais bien sûr, sont des problèmes difficiles. Donc, qu'il y ait des opinions différentes ne me gêne pas. Si on en vient à l'invective, alors bon, ça je le regrette, bien entendu. La dénonciation, la cancel culture, je n'aime pas. Par contre...
La cancel culture, vous n'aimez pas?
La cancel culture qui consiste à effacer, je n'aime pas. Parce que l'histoire n'est pas l'effacement. Et quand il y a effacement de quelque chose, il y a un risque considérable. Par contre, je suis assez intersectionnelle.
Ah.
Je trouve que l'intersectionnalité, nous l'avons toujours pratiquée. Quand on a commencé, on disait, attention, c'est pas la même chose d'être une femme bourgeoise, une femme ouvrière ou une paysanne. Donc il faut croiser le social et le sexuel.
Et bon. La race.
Et bien entendu. Alors, on ne le disait pas tant que ça dans les années 70. On le dit beaucoup plus aujourd'hui. D'une part parce que les femmes, elles diraient racisées, sont beaucoup plus présentes et il faut s'en réjouir. Et il n'est pas étonnant qu'elles apportent un autre regard et une autre parole. Et je dirais, tant mieux. Tant mieux. Je crois qu'il faut faire une distinction entre la découverte des différences, qui est un enrichissement considérable et que pour ma part, j'ai toujours recherché, et le fait de transformer ces différences en identité. Là, il y a un risque. Là, il y a un risque.
Et est-ce que vous le voyez, ce risque, chez les jeunes féministes intersectionnelles, où ça devient un argument identitaire, comme vous dites?
Oui,
est-ce que vous voyez un risque,
de temps en temps.
Ces jeunes féministes, oui. Pour qui, Michel Perrault, vous êtes aujourd'hui une icône. Beaucoup se revendiquent de vous, c'est-à-dire dans l'ancienne génération, elles disent non, Elisabeth Badinter, oui, Michel Perrault.
Oui, mais écoutez, alors là, franchement, moi, je tire ma chaise, hein. Je n'ai rien à dire là-dessus. Elisabeth Badinter est une amie. Nous ne pensons pas la même chose sur tout. Il y en a deux. Je pourrais citer d'autres femmes que j'aime énormément, avec lesquelles je ne suis pas en accord. Mais quoi, on en discute, et puis voilà.
Quand vous fondez le groupe d'études des femmes à Jussieu, il y a déjà une discussion pour savoir si le groupe doit être mixte ou pas. Vous, vous défendez le fait que les garçons puissent assister à vos réunions. Finalement, c'est la majorité qui l'emporte, c'est de faire des réunions non mixtes.
Oui.
Que des femmes.
Oui.
Vous le regrettez a posteriori?
Pas du tout. Je pense que mes amis avaient raison. Moi, je réagissais comme déjà quelqu'un d'un peu plus âgé et qui, d'autre part, avait beaucoup d'étudiants. Et je me disais, mais pourquoi ils viendraient pas? Mais elles avaient raison. C'était important à cette époque-là où on abordait des problèmes intimes. La contraception, l'avortement, la sexualité, on avançait sur la pointe des pieds. On était vraiment très timide dans ce domaine-là. On ne pouvait pas parler de ça devant des hommes à cette époque-là. On aurait senti un regard d'homme. Au fond, est-ce que les garçons le souhaitaient tellement? Peut-être pas tant que ça.
À chaque femme, je demande une chanson qui lui évoque les femmes, la puissance des femmes. Vous avez choisi quoi ?
J'ai choisi une chanson d'Aretha Franklin qui s'appelle Think, parce que c'est une chanson de 1968, un plein mouvement de libération des femmes aux États-Unis, hein, un petit peu avant la France, et que c'est une chanson qui parle des violences sur les femmes avec beaucoup d'humour. Elle dit en quelque sorte « Liberté, liberté, réfléchis à ce que tu fais ».
Think, Aretha Franklin. On retrouve tout de suite Michel Perrault.
Femme puissante sur France Inter.
Recherche et militantisme font-ils bon ménage ? Est-ce qu'on arrive à garder sa rigueur scientifique sur un sujet aussi intime ?
Eh bien, il faut se méfier. Il faut se méfier du militantisme. Je m'en suis toujours méfiée. Les ouvriers n'ont pas toujours raison. Ça a beau être des ouvriers. Et on découvre aujourd'hui les problèmes que pose le peuple. Le peuple ne détient pas nécessairement un modèle politique dominant. Les femmes non plus n'ont pas toujours raison. Et on peut très bien voir incarner un idéal politique par une femme qui introduirait une manière beaucoup plus totalitaire de gouverner. Autrement dit, il faut être extrêmement nuancé dans ces domaines-là. Et le militantisme ne doit jamais effacer la rigueur et la recherche de la vérité. L'histoire, c'est une recherche de vérité qu'on ne détient pas, qu'on cherche toujours. Et donc, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, ce qui n'empêche pas de s'enthousiasmer pour la cause des femmes.
Michel Perrault, venons-en à MeToo à présent et écoutons, si vous le voulez bien, Annie Ernaux sur le sujet. Pour qui cette révolution, la libération de la parole des femmes il y a 4-5 ans, ça a été pour elle une révolution ? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais on l'écoute d'abord.
C'est un grand tournant. Je n'ai jamais perçu une telle détermination de la part des femmes mondiale, enfin presque mondiale, depuis en fait les années 70. Surtout après des années de reflux. Il y a eu une époque dans les années 90 où se dire féministe était pratiquement impossible. On vous regardait comme un dinosaure. Et c'est une phrase que je me souviens avoir écrite dans mon journal. Je crois que je mourrais sans avoir vu la révolution des femmes. Et donc le mouvement MeToo, il y a 2 ans, a été pour moi comme une grande lumière, une déflagration que je n'attendais plus au fond.
Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Annie Ernaux, que je salue. Hein. Je pense qu'elle a raison.
C'est une déflagration, mais pas une révolution, pas encore. Elle dit c'est une révolution.
Oui, enfin... Ça, c'est une question de mots, par ailleurs. Pour qu'il y ait révolution, il faut véritablement aller encore beaucoup plus loin. Mais Françoise Héritier, par exemple, qui ne s'est jamais revendiquée comme féministe, sauf à la fin de sa vie, disait « MeToo, c'est une révolution copernicienne ». Elle a dit ça. Par conséquent, elle considérait « la honte a changé de camp ». Autrement dit, voilà deux femmes tout à fait féministes, engagées, tout ce qu'on veut, qui considèrent en effet que MeToo, c'est très important. Elles ont, à mon avis, raison, notamment sur deux points, la mondialisation. Mais ça, ça tient aux techniques de communication.
Aux réseaux sociaux,
aux réseaux sociaux
que vous ne fréquentez pas.
Que je ne fréquente pas tellement, mais qui, là, ont un effet positif. Comme d'ailleurs beaucoup de choses, il y a toujours un effet positif, négatif. Et puis, deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on les écoute, les femmes. Annie Ernaux dit, dans les années 90, quand on se proclamait féministe, on se faisait moquer de soi. Mmh. Elle a raison, il y avait eu un reflux dans ces années-là.
Elle a raison, et moi qui ai 40 ans, j'ai remarqué que ma génération, prise en étau entre la vôtre, nos aînés qui avaient fait toutes les causes des années 70, et les jeunes générations de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont beaucoup plus revendicatrices et engagées, j'ai le sentiment que cette génération était un peu endormie, ma génération, qu'on avait un peu honte d'être féministe. Oui. Je parle pas de tout le monde, hein, il va y avoir des exceptions, mais je dirais qu'on a mis du temps à comprendre l'importance et que d'une certaine manière, Annie Ernaux a raison quand elle dit qu'il y a eu une régression dans les années 90, c'était ringard d'être féministe.
Elle a tout à fait raison, il y a eu une régression très nette dans les années 90 où c'était gagné, voilà, on avait des choses importantes, et en réalité, non. Beaucoup de choses étaient encore à faire. Donc je souscris complètement à ça.
Quand Elisabeth Badinter dit craindre une guerre des sexes, quand elle dit j'en ai marre du féminisme victimaire, les femmes ne doivent pas être assignées au statut de victime. Ça vous parle ou vous avez envie de la contredire sur ce point ?
Alors, deux choses. D'une part, je la comprends. Et pour ma part, le fait d'être victime n'a pas été ce que je cherchais dans l'histoire des femmes. On cherchait plutôt les femmes actives, les actions des femmes, comment est-ce qu'elles s'étaient débrouillées pour acquérir telle ou telle chose. Donc, je la comprends complètement. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus négliger cette situation de victime qui est réelle. On le voit bien dans le féminicide. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui existe. Il y a une violence sur les femmes qui existe en France et encore beaucoup plus dans d'autres pays comme l'Amérique latine où il y a un machisme quand même absolument débridé. Alors la question c'est, il s'agit pas de pleurer sur les femmes victimes, il s'agit de comprendre, Elisabeth Badinter le fait bien entendu, pourquoi cette situation ? C'est toute la fameuse question de la domination masculine qui est un des axes de réflexion dans lequel Simone de Beauvoir a été très importante d'ailleurs.
Vous avez dit récemment dans un article dans Le Monde qu'il y avait une crise de l'identité masculine. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je me pose la question souvent, comment est-ce que les hommes vivent tout cela ? Étant donné la position prépondérante qu'ils avaient, qui était naturelle, entre guillemets, pour eux, ils ne peuvent d'une certaine manière que vivre cela comme une perte, comme une régression. Il faut peut-être qu'ils s'aperçoivent, les plus jeunes le font, qu'ils gagnent quelque chose aussi à ce changement en ayant d'autres rapports amoureux, sexuels, dans le travail, avec les femmes. Mais tous ne le font pas. Et on peut observer aujourd'hui qu'il y a une espèce de virilisme terrible, hein, par moments qui me sidère.
C'est-à-dire ?
Dans le sport, par exemple. Il y a de temps en temps le sentiment que les hommes en ont marre et que vraiment la virilité doit s'affirmer à tout point. Donc, c'est une question. Et je crois qu'il y a une différence dans les générations. Hein, et que les jeunes hommes se posent beaucoup de questions, les uns pour rejeter tout ça, il y en a marre, et les autres pour s'interroger véritablement.
Un mot sur la féminité. Écoutez ce que dit Laure Adler des femmes de pouvoir, des femmes politiques notamment.
Je pense qu'une femme, quand elle rentre en politique, obligatoirement, à l'exception de quelques vraiment très rares exemples, eh bien, elle rentre en elle toutes ses capacités érotiques, toutes ses capacités de séduction. Elle devient une sorte de soldat moine au profit de nous tous.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec Laure Adler ? Les femmes de pouvoir, les femmes politiques, les grandes chefs d'entreprise, quand elles accèdent au pouvoir, elles ont tendance à se viriliser, à gommer leur féminité ?
Je pense que ça a été assez vrai. Et la frivolité, il fallait absolument l'exclure de l'image qu'elles allaient donner. C'était probablement nécessaire. Il me semble que le temps passant, et les femmes devenant plus nombreuses, ici je suis quantitativiste si vous voulez, s'il y en a davantage, bah, c'est plus décontracté tout de même.
S'il y a de plus en plus de femmes ministres, de femmes grandes chefs d'entreprise,
bien sûr,
elles imposeront les codes de la féminité.
À la vérité, je m'interroge sur les codes de la féminité. Qu'est-ce que c'est, au fond, les codes de la féminité?
C'est la question que je voulais vous poser.
La troisième voie. Ni homme, ni femme, mais autre chose. Hein, au fond, la théorie queer, la théorie de Judith Butler et autres, que d'ailleurs elle rejette plus ou moins actuellement, donc il faut faire attention, c'est la troisième voie. Derrida disait ni un, ni deux, mais trois. Hein? Et Hannah Arendt disait ça aussi. Il faut cesser d'opposer le noir, le blanc. Il faut inventer quelque chose.
Vous dites, Michel Perrault, les femmes s'interrogent de plus en plus sur la complexité et l'ambiguïté des relations de séduction et du pouvoir. Là aussi, qu'est-ce que vous entendez par cette ambiguïté? Ça veut dire que pour être vraiment puissante, une femme doit devoir arrêter de séduire?
Oui, si on accorde à la séduction sexuelle, par exemple, la première place, on va réduire l'angle d'attaque. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'exerce pas une certaine séduction, mais au sens très large du terme. Hein. Et il ne faut surtout pas être prisonnier de l'idée qu'une femme doit rester féminine, rester ceci, rester cela.
C'est ce que vous disait votre mère, Michel Perrault. Elle vous disait « reste féminine ».
Oui, ma mère me disait ça, mais ma mère était infiniment féminine.
Et quand vous lui avez dit « je veux faire de l'histoire », elle a eu très peur.
Oui.
Dites-vous que vous terminiez en, je cite, « vieille fille mal habillée ».
Oui, absolument. Elle avait été élève au lycée Fénelon, début du XXe siècle, et elle avait peur de ça. Elle me disait « oh, mes professeurs, ils étaient toujours habillés en noir, ils avaient des chignons ». Et elle ne voulait pas ça pour moi. Mais mon père disait le contraire. Mon père me disait « surtout ». Ma petite fille, ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos.
Oui, c'est vrai qu'il vous disait ça.
Oui.
Vous ne l'avez pas écouté. Vous vous êtes mariée jeune.
25 ans, j'avais quand même fait beaucoup de choses déjà.
Lui était très féministe, votre père.
Mon père était féministe, le mot l'aurait agacé. Il n'aimait pas du tout les mots en isme, tout ça, ça l'agaçait profondément.
Mais il était, vous dites-vous, fantaisiste et anticonformiste. Alors, c'est des mots en iste, mais c'est vous qui le dites.
Oui, tout à fait. Et il me citait un roman de Sinclair Lewis, où il y avait une femme médecin dans le roman, hein, et elle a un amoureux, ça se passe dans les années 1925 aux États-Unis. Et son amoureux lui dit, mais puisque tu m'aimes, tu renonces à ton métier. Et la femme en question, dans le roman, dit non. Et mon père me dit, il faut que tu fasses comme elle.
Est-ce qu'il y a un objet, je demande à chaque femme de préparer un objet qui incarne pour elle la puissance. Qu'avez-vous choisi ?
Quelque chose qui n'incarne pas du tout la puissance. Alors là, vraiment, j'y suis pas du tout. C'est un tableau que mon père aimait beaucoup. Alors un tableau, faut le décrire, hein. C'est ovale. Il y a au milieu un cyprès. On aperçoit au pied du cyprès des genoux, de chaque côté, un couple, visiblement. Et il y a deux chevaux qui s'embrassent, en quelque sorte. Et pour mon père, qui aimait les chevaux, peut-être les femmes, en tout cas ma mère, pour lui, c'était l'image de la liberté et de l'amour. Et il m'a légué ce tableau, et ce tableau, ben, je l'aime beaucoup.
Votre père vous a marqué, si vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est aussi parce que votre père vous avait poussé.
Ah oui, 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 certainement.
J'ai remarqué que la figure du père était très importante chez toutes les femmes puissantes que j'interviewe. Soit qu'il les ait poussées, soit qu'il les ait empêchées, mais elles se sont construites en fonction de cette image-là.
Mais comment voulez-vous que ce soit autrement, que ce sont justement les hommes qui sont puissants? Ils détiennent les clés du savoir, du pouvoir, et dans un couple probablement, au moins dans ma génération, c'est tout de même encore eux qui dominent, même si mon père était très égalitaire. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il ne voyait pas quand même.
Et vous pensez que ça change aujourd'hui? Qu'un enfant d'aujourd'hui peut se définir en fonction de sa mère tout autant que de son père?
Oh, certainement. Mais ça vient aussi du fait qu'il y a eu une libération des femmes depuis un demi-siècle quand même, hein, à tout point de vue, et que les femmes travaillent. Donc elles sont là, elles construisent des modèles, elles ont des ambitions, peut-être faut-il qu'elles rêvent de devenir femmes puissantes, je n'en sais rien. Et oui,
on peut tout avoir aujourd'hui, une carrière, une vie amoureuse, une vie de famille, comme un homme, sans faire de sacrifices, où il faut qu'on bosse deux fois plus. À tout point de vue.
Alors, tout ce que vous dites est possible maintenant pour un certain nombre de femmes. Mais Pour la majorité des femmes, non, ce n'est pas encore vrai. L'égalité n'est pas encore réalisée. À travail égal, il y a toujours 12% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et surtout, les femmes ne font pas les mêmes formations que les hommes. Il y a encore des différences qui fait que elles ont tendance à choisir des chemins de traverse parce que c'est difficile, parce que c'est pas fait pour une femme, etc., etc. Donc, non, les choses ne sont pas réglées. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour les jeunes féministes d'aujourd'hui.
Il y a aussi un autre sujet sur lequel peut-être on n'est pas égaux, peut-être on tend vers l'égalité, c'est notre rapport, les hommes et les femmes, à la vieillesse, au temps qui passe. Est-ce que vous avez vu les choses? Alors, je ne sais pas si on peut donner votre âge, mais vous êtes né en 1928, Michel Perrault. Mais il y a quelques années, passé 50 ans, une femme ne valait plus rien. Globalement, est-ce que vous avez vu les choses changer?
Oui, les femmes de 50-60 ans se sentent souvent bien dans leur peau, et surtout quand elles ont fait une carrière, qu'elles ont une retraite convenable. Il faut faire attention à ça. Mais il me semble tout de même que les femmes de ces âges-là sont actives, même souvent assouvissent des désirs qu'elles n'avaient pas pu assouvir avant.
La vie sexuelle des femmes, et des hommes d'ailleurs, passé 60-70 ans, ça reste quand même un sujet un peu tabou, non?
Ça reste un sujet tabou, mais de moins en moins. Je vois beaucoup de femmes d'une soixantaine d'années qui n'hésitent pas, si elles ont eu des déceptions avant, à s'embarquer dans des aventures, y compris avec des hommes plus jeunes.
Ça vous est pas arrivé, ça?
Non.
Mais vous avez été une grande amoureuse, vous vous êtes mariée à 25 ans?
Oui, mais... J'aime pas trop parler de ça, mais j'ai épousé l'homme de ma vie et qu'il est toujours là.
Quelle mère avez-vous été? Vous avez une fille?
Oui.
Vous avez été une mère progressiste?
Très libérale.
Trop?
Non, je ne pense pas. Je pense que mon compagnon, mon mari, était plus inquiet que moi. Il était peut-être inquiet devant l'émancipation des filles. Et par conséquent, il avait tendance à regarder, à être rigoureux, à demander. Moi, je disais, mais non.
Lâche-la.
Oui.
Vous l'avez lâchée, vous?
Oui.
Et vous êtes fière de votre fille aujourd'hui?
Ah oui, elle est formidable.
C'est une économiste reconnue.
Elle est inspectrice générale des finances. Elle a été vice-présidente du Conseil national de la concurrence. Elle a fait beaucoup, beaucoup de choses.
Les femmes qui assument qu'elles ne veulent pas d'enfants sont encore mal vues par la société, Michel Perrault. Vous ne trouvez pas?
Vous croyez?
J'ai l'impression que les choses changent, mais peut-être plus doucement sur ces questions-là. Une femme, oui. C'est quand même, ça reste fait pour procréer dans la tête de beaucoup de gens.
Oui, c'est vrai que quand on voit dans un couple qui n'a pas d'enfant, on s'inquiète un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'on reste marqué par l'idée de la maternité, de la procréation. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue, c'est que l'enfant est une valeur montante de notre société. Jamais on a autant valorisé l'enfant, aimé l'enfant, même si on ne le traite pas très bien. Et je pense que la cause des enfants est une cause pour laquelle il faut se battre.
Mais cette valorisation de l'enfant, vous la trouvez un peu excessive?
Peut-être un peu excessive de temps en temps. Une femme peut parfaitement dire « moi je ne veux pas d'enfant, après tout ». Pourquoi pas? Elle n'en sera pas moins une femme. Elle a le droit. Et il faut, je pense, en effet, que les modèles soient multiples pour que les jeunes femmes puissent trouver ce qu'elles ont envie de faire. Alors, je crois que c'est très important.
Quel conseil vous donneriez, Michel Perrault, à une jeune femme de 20 ans d'aujourd'hui?
Je lui dirais, sois libre, réfléchis, choisis. Mais je lui dirais quand même, sois intelligente.
Ça veut dire quoi?
Fais pas n'importe quoi.
Ça veut dire quoi? Fais pas n'importe quoi.
Mesure les choses. Choisis ton chemin. Ne cède pas aux modes. Les choses sont pas si simples, en définitive. L'idée de la complexité, quand même, je crois qu'une jeune fille de 20 ans doit l'avoir aussi.
Quelques questions de fin, pour finir, si vous le voulez bien. Vous répondez spontanément ce qui vous passe par la tête, ou pas d'ailleurs. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Je choisis égalité. Parce que c'est le plus difficile à réaliser et parce que, au fond, je suis peut-être aussi très marquée par le social. Et par conséquent, pour moi, l'idée d'égalité englobe les hommes et les femmes et englobe beaucoup de choses dans la société. Enfin, liberté, tout de même.
Si vous n'aviez pas été historienne, vous auriez fait quoi?
J'aurais voulu être chanteuse.
Ah, vous chantez bien?
très mal. Ou alors être musicienne, vous voyez. Évidemment, si j'avais pu composer de la musique, ça, je crois que ça aurait été pour moi l'idéal, parce que la musique, c'est le langage des dieux. C'est celui auquel les femmes ont tellement de difficultés à accéder. Alors, accéder à ça, ça aurait été bien.
Faut-il censurer Gauguin des expositions parce qu'il avait des relations sexuelles avec de très jeunes filles?
Non. Sa peinture résiste à tout, mais il faut le dire. Les hommes créateurs du 19e, dont on aime les romans, les poèmes, y compris Victor Hugo, mais avec les femmes, il avait l'attitude des hommes de son temps, un parfait séducteur et souvent un parfait macho.
Olympe de Gouges ou Louise Michel?
Oh, Olympe de Gouges. Je l'aime beaucoup, Olympe de Gouges. Elle était actrice, elle arrivait de sa province, elle a écrit un texte inimaginable, hein. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne tient le coup aujourd'hui comme un texte intemporel.
Marguerite Duras ou Françoise Sagan?
Marguerite Duras, à cause de l'écriture, à cause de la profondeur de la pensée, de la réflexion. J'aime bien Françoise Sagan, j'aime beaucoup, hein. Mais Marguerite Duras, c'est quand même autre chose.
En un mot, Mona Ozouf, c'est qui pour vous? Vous êtes toutes les deux historiennes et vos maris étaient amis et ça fait
et
ça
nous aussi.
60 ans que ça dure.
Bien sûr, nous étions professeurs ensemble au lycée de jeunes filles de Caen. Et par conséquent, nos vies se sont croisées, recroisées, etc.
Alcool, drogue, vous avez des vices?
Pas assez.
La guerre de 39-45, vous étiez jeune adolescente. Si vous aviez une image qui vous revient de la guerre... Vous avez 12-13 ans.
Un Allemand qui entre dans notre maison à Montmorency en 44. C'est la bataille de Montmorency. Les Allemands sont vaincus. On le sait. Il entre. Et mon père lui dit « Allemagne kaput ». Et l'Allemand se redresse et lui dit « Non, monsieur, l'Allemagne ne peut pas perdre la guerre ».
La question Jacques Chancel pour terminer. Et sinon Dieu dans tout ça?
Je l'ai aimé, je ne le déteste pas, mais je ne sais pas s'il existe.
Merci beaucoup, Michel Perrault, de nous avoir accordé cet entretien sur les femmes, sur vous aussi un petit peu, et sur leur puissance, peut-être.
Merci à vous, Léa Salamé.
Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves.
T'énerves pas.
Faire des dégâts. Amène-moi, amène-moi. Je vais, je vais, je vais rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Badaboum, boum, patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. T'es comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha.
C'était Cha-Cha-Cha de Bonnie Banane. Cette émission était préparée par Paola Puerari, Alexandre Gilardi, Marie-Elisabeth Jacquet et Alexandra Brouillet. À la prise de son, Romain Lequins, Dofar Guéride au mix, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et Hélène Bizio à la réalisation.